Philippe Arimont, 22 mars 1990, premier cours.
Nous allons continuer cette petite recherche. Livre donc 8e. Bien comprendre hein, le lien entre 7 et 8. Il faut d'abord écouter Aristote, le comprendre, ce qui n'est toujours pas si commode, pour ensuite essayer de voir. Donc je reprends paragraphe 5. Nécessité du premier moteur, son immobilité. Or, cela s'entend de deux sens. Dès lors, on peut dire que tout ce qui est mu par quelque chose. Le abalio, hein, c'est ça qui est. Nous avions déjà essayé de comprendre ça, tout ce qui est mu par un autre. Alors, or, cela peut s'entendre en deux sens. Toto, do, dikos. Ou bien, le moteur ne me pas par son propre moyen. Mais par le moyen d'un autre, d'une autre chose, qui meut le moteur, ou bien il meut par lui-même. Alors il est, ou immédiatement après le terme extrême, ou séparé de lui par plusieurs intermédiaires, tel le bâton qui meut la pierre, et est mu par la main, laquelle est mue par l'homme, mais celui-ci meut, sans être à son tour mu par autre chose. Certes, nous disons que tous les deux meurent, et le dernier, c'est-à-dire le bâton, aussi bien que le premier, c'est-à-dire l'homme. Mais c'est principalement le premier, car celui-ci meut le dernier, tandis que le dernier ne meut point le premier. C'est-à-dire que sans celui-ci, le dernier ne peut mouvoir, tandis que le premier le peut sans l'autre. Ainsi, le bâton ne mouvra pas si l'homme ne meut pas. Si donc, tout ça c'est facile à comprendre, voyez, essayez de saisir les liens et les intermédiaires possibles entre le mouvement, la réalité mue, puis le moteur, cause efficiente. Si donc tout mu est nécessairement mu par quelque chose, ou bien mu par une autre chose, ou bien non. Et si c'est par une autre chose mu, il faut qu'il y ait un premier moteur qui ne soit pas mu par autre chose. Mais si, d'autre part, on a trouvé un tel premier moteur, il n'est pas besoin d'un autre. Il est suffisant. En effet, il est impossible que la série des moteurs qui sont eux-mêmes mus par autre chose aille à l'infini. On a toujours cette même affirmation. On ne peut pas remonter à l'infini. Ce qui est déjà une affirmation chez Platon. C'est ça. Nos régressus à l'infini existent chez Platon. Vous voyez, c'est très intéressant de voir ça. Ce que Platon n'a pas vraiment saisi, l'analogie entre les causes, mais s'il a saisi le non-régressus à l'infini. Et c'est très étonnant de voir que le non-régressus à l'infini continue chez les philosophes, même quand ils refusent la causalité. Oui. Donc le non-régressus à l'infini a quelque chose de particulier qui, pour nous, est lié à la causalité, mais qui n'est pas entièrement lié à la causalité. Le non-régressus à l'infini est purement critique. C'est de l'ordre de l'intelligibilité. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Vous ne pouvez pas remonter à l'infini. On dit nous dans l'ordre des causes. Et c'est seulement on ne peut pas remonter à l'infini si vous êtes en face de quelque chose qui existe. Alors vous le pouvez dans l'ordre de la la science moderne, dans l'ordre du pur conditionnement. Le pur conditionnement, c'est ce que saint Thomas dit à propos du marteau, vous savez. Il prend cet exemple très simple du marteau. Vous voulez enfoncer un clou, mais vous êtes d'une maladresse folle. Et surtout, les marteaux que vous prenez ne sont pas très vigoureux. Et le clou est plus vigoureux que le marteau, ce qui n'est pas arrivé. Alors vous voulez enfoncer le clou, le marteau. Vous prenez un marteau, le marteau se fêle. Vous en prenez un autre, et le clou ne s'enfonce pas. Et vous arrivez à l'infini. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez vous servir indéfiniment de marteau d'hiver. Il n'y a pas de régression. Vous voyez, vous pouvez remonter à l'infini. Parce que vous êtes dans l'ordre du père accidens. Le père accidens tolère l'infini, et pas la causalité propre. Ça, c'est très important. Saint Thomas donne les deux exemples. Il donne cet exemple du marteau qui n'est pas de Saint Thomas, ce qui est d'Aristote. Vous n'avez qu'à faire l'expérience, quoi. Et vous verrez que vous pouvez utiliser une infinité de marteaux pour enfoncer un clou. Alors, il y aura des raisons. Que le clou soit plus solide que le marteau, il faut qu'il y ait des tas de raisons pour que ça puisse se faire, mais il n'y a pas d'impossibilité dans l'ordre du père Akshinas. C'est uniquement dans l'ordre essentiel de la causalité à l'effet qu'on ne peut pas remonter à l'infini. Il faut qu'il y ait un premier moteur qui ne soit pas mu par autre chose. Mais si d'autre part on a trouvé un tel premier moteur, il n'est pas besoin d'un autre. En effet, il est impossible que la série des moteurs qu'ils ont eux-mêmes mus par autre chose aille à l'infini, puisque dans les séries infinies, il n'y a rien qui soit premier. C'est sûr. Dans les séries infinies, il n'y a rien qui soit premier. Ça, retenez ça, parce que c'est là l'impossibilité. Vous êtes dans le relatif absolu si vous remontez à l'infini. Si donc tout ce qui est mu l'est par quelque chose, et que le premier moteur, tout en étant mu, ne l'est pas par autre chose, il est nécessaire qu'il soit par soi, qu'il soit mu par soi. On peut encore formuler de cette manière l'argument qui précède. Tout moteur, à la fois me quelque chose, et me par quelque intermédiaire. En effet, le moteur, ou bien a lui-même pour intermédiaire, ou bien autre chose. Ainsi, l'homme me, ou par soi, ou par le bâton. Et le vent renverse, ou par lui-même, ou par la pierre qu'il a poussée, par la tulle qui fait tomber. Or, le mouvement ne peut se transmettre par autre chose. Sans une autre qui se meuve par soi. Mais si celle-ci se meut par soi, il n'est pas besoin d'une autre chose par quoi elle meuve. Et si, d'autre part, l'intermédiaire est distinct du moteur, ou bien il y a un moteur dont l'intermédiaire ne sera pas autre que lui-même, ou bien l'on ira à l'infini. Si donc c'est quelque chose de mu qui meut, il faut s'arrêter et ne pas aller à l'infini. Si en effet le bâton meut parce qu'il est mu par la main, c'est la main qui meut le bâton. Mais si elle aussi est mue par autre chose, son moteur sera aussi quelque chose de distinct. Quand donc le moteur se présente toujours distinct de ce par quoi il meut, il est nécessaire qu'il y ait antérieurement un moteur qui soit à lui-même son propre intermédiaire. Par suite, si ce moteur est mu sans qu'il n'y ait rien d'autre qui le meuve, nécessairement il se meut soi-même, de sorte, en vertu aussi de ce second argument, ou bien tout mu ému immédiatement par un moteur qui se meut soi-même, ou bien à un moment quelconque on parvient à un moteur de ce genre. leur montrer qu'on ne peut pas aller dans le Ressus à l'infini. Il n'est pas nécessaire donc que tout moteur soit bu. Et maintenant, à envisager la question encore de la façon que voici. Les résultats, on va le voir, seront identiques. Si en effet, le mu est universellement mu par une chose mu, ou c'est là une propriété accidentelle des choses, le moteur serait bien un mu, mais sans être toujours assujetti à la condition d'être mu. Ou bien, ce n'est pas par accident, mais essentiellement. Voyons donc le premier cas. Oui. Alors, voyez le raisonnement, hein. Remarquez bien ce genre de raisonnement. Qu'est-ce que c'est que ce genre de raisonnement? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Méthode de division. Hein. Toutes les possibilités sont envisagées. Et on voit les impossibilités qui se dressent à l'intérieur de ces possibilités. Qu'est-ce que c'est comme raisonnement? C'est un raisonnement critique. Puisque je suis impossible. C'est pas un raisonnement philosophique, vous voyez. Le raisonnement philosophique part d'un fait. Là, je pars d'hypothèse. Par hypothèse, très bien. Par hypothèse, prenons ce cas particulier d'une réalité qui est mue par un autre, et cet autre est lui-même mu par un autre. Très bien. Ou bien au contraire, cette réalité est mue par un autre, cet autre se meut lui-même et n'est pas mu par un autre. Oui, donc c'est toutes les possibilités. Et on voit dans ces possibilités ce qui est impossible. Donc vous êtes en face d'un raisonnement critique. Puisque Aristote lui-même dit que le propre de la philosophie, c'est de commencer par l'expérience et non pas par l'hypothèse. Selon Platon, le raisonnement par hypothèse, c'est un raisonnement mathématique. Vous vous souvenez, il dit ça dans la République. Et pour Aristote, le raisonnement par hypothèse est un raisonnement mathématique ou un raisonnement critique. Puisque l'hypothèse, c'est quelque chose de possible. On ne dit pas que c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose de possible. Donc, étant puissant par rapport à l'exister. Alors, vous voyez, ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question en phénoménologie avec Husserl. Si on met entre parenthèses l'exister, je suis donc en face d'un raisonnement hypothétique. Je suis donc en face d'un raisonnement critique. C'est pour ça que la méthode réductive est une méthode critique. Toute la critique est réductive. On cherche quel est le point fondamental le plus simple qu'on ne peut pas réduire à autre chose. Vous savez, l'intelligence humaine n'a pas quand même 36 possibilités de raisonnement. Il y en a un certain nombre. Et c'est intéressant de noter ce nombre de raisonnements possibles. Raisonner sur une hypothèse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne peut être qu'un raisonnement réductif. Parce que c'est ça qui est intéressant, René. Parce que autrement vous allez vous casser la tête. Ceux qui ont un peu le sens mathématique, ça c'est facile à comprendre. Il n'y a qu'à faire ça par mode. Il faut l'écrire sur un papier, toutes les hypothèses, et puis voir qu'on est là. Oui, c'est ça. Ça met un peu de temps, mais c'est bon de faire ça une fois dans sa vie. Hein. Par rapport à ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Saint Thomas l'a fait. Et Saint Thomas l'a repris, de fait, dans le Contrat Gentiles. On le verra. Je vous l'ai promis. Parce que je veux voir le passage d'Aristote à Thomas d'Aquin. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse au fond, en définitive. Et de le voir sur un lieu particulièrement important, les voies. C'est net qu'il y a continuité et une influence. Personne n'a mis ça en doute. Et le seul raisonnement de la somme qu'on attribue, que certains attribuent au néoplatonisme, en disant ça c'est du néoplatonisme, c'est la seule fois où ça devrait faire référence à Aristote. Donc c'est signé. Satova savait très bien qu'en faisant ça, on dirait référence au platonisme. Non, référence à Aristote. Ce qui prouve bien que les cinq voies sont aristotéliciennes. Contrairement à, je vous dis, toute une série de thomistes qui disent que la quarta via est néoplatonicienne. Elle n'est pas néoplatonicienne. Il n'y a pas un seul raisonnement dans un Thomas qui est néoplatonicien. Pas un seul. Parce que cette fois, c'est trop bien l'ontologisme impliqué dans le néoplatonisme. Là, il faut le découvrir soi-même pour que quand vous êtes en face de quelqu'un qui dit ça, vous dites, oh non, 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 non. Où est-ce que ça se trouve? Et puis vous répondez que c'est une erreur. Parce que c'est une manière, vous voyez, de ne plus voir la philosophie réaliste de saint Thomas. Ça m'est égal, moi, le néoplatonisme ou Aristote, vous comprenez, comme source. Ce sont des grands-pères intéressants. Néoplatonisme, aristotélisme. Ce qui m'intéresse, c'est la recherche de la vérité. Est-ce qu'on peut atteindre la vérité avec le néoplatonisme? Toute la question est là. Si on ne peut pas atteindre la vérité avec le néoplatonisme, on le laisse tomber. On le récupère dans un jugement de sagesse. Alors, dans un jugement de sagesse, je récupère tout le néoplatonisme. Croyez-le bien. Avant de le vérifier vous-même. Alors, je continue cette lecture. Mais soyez attentifs avant tout à la méthode. C'est ça qui est intéressant. Voyons donc le premier cas. Si c'est par accident, il n'est pas nécessaire que le but soit en mouvement. Or, s'il en est ainsi, on voit qu'il est possible de concevoir un temps où rien de ce qui existe ne sera en mouvement. Car l'accidentel n'est pas nécessaire, mais susceptible de ne pas être. Si donc nous partons de la possibilité de ce fait, il n'en résultera rien d'impossible, mais seulement peut-être une fausseté. Mais la non-existence du mouvement est impossible. On a montré plus haut que nécessairement le mouvement a toujours existé. Ah, voyez, ça c'est intéressant, c'est revenu. Hein. Et cette conséquence est conforme à la raison. Logos tuto sum bebeke. Et cette conséquence est conforme à la raison. En effet, oui, c'est intéressant parce que ça montre que au livre 8, le raisonnement d'Aristote présuppose l'éternité du mouvement. Alors, il l'a montré dans les chapitres 1 et 2 de ce livre 8. En effet, il y a nécessairement trois choses. Vous voyez, la réduction. Le mu, le moteur, ce par quoi il meut. Il y a nécessairement trois choses. Le mu est nécessairement mu, mais ne meut pas nécessairement. Ce par quoi le mouvement est nécessairement transmis, me et ému, car il change avec le mu, étant avec lui et dans une même relation. On le voit par ce qui meut localement, car le contact mutuel est alors pour quelque temps nécessaire. Enfin, le moteur est immobile, en tant du moins qu'il n'est pas ce par quoi se transmet le mouvement. Or, comme nous avons sous les yeux un terme extrême qui peut être mu, mais n'a pas en soi de principe du mouvement, ensuite un moteur qui est mu par autre chose et non par soi. Il est raisonnable, pour ne pas dire nécessaire, que le troisième terme existe, à savoir ce qui me étant immobile. Vous voyez comme ça, c'est amusant, le tour de passe-passe. Mais Eulogos, c'est Eulogon. Il est raisonnable. Il est raisonnable, Eulogon. On est donc en face d'un raisonnement qui n'est pas un raisonnement au sens strict, scientifique. Il est réductif. Il est raisonnable, pour ne pas dire nécessaire. Afin de ne pas dire qu'il soit nécessaire. On ne voit pas pourquoi. Il ne dit pas tout simplement qu'il est nécessaire. Vous savez, eulogon, ina, mais, anakaion, eipomen, afin de ne pas dire. Afin de ne pas dire que c'est nécessaire. Pour ne pas dire nécessaire que le troisième terme existe, à savoir ce qui me étant immobile. C'est pourquoi également Anaxagore a raison de proclamer que l'intellect est impassible et sans mélange, puisque justement il en fait un principe de mouvement. S'il peut en effet mouvoir, c'est à condition seulement de n'être pas mu. S'il peut dominer, c'est à condition d'être sans mélange. Ah, c'est très curieux qu'Anaxagore réapparaît ici. Hein. Ça, c'est très intéressant de voir le parallélisme qu'il fait avec Anaxagore. Vous voyez, les deux pointes ultimes de la philosophie, l'intellect agent, et Dieu. L'intellect qui meut, l'intellect séparé. Parce que Aristote reprend Anaxagore dans le Dianima. Il ne faut pas l'oublier. Et ici, il fait le parallélisme entre le premier moteur immobile et le nous. Et s'il peut dominer, c'est à condition d'être sans mélange. Mais pour dominer, il faut être sans mélange. Celui qui exerce l'autorité et qui veut dominer, il faut qu'il soit sans mélange. À l'autre alternative maintenant, si le moteur est mu, non plus par accident, mais par nécessité. Et si, à moins d'être mu, il ne doit pas mouvoir, nécessairement le moteur doit, en tant qu'il est mu, ou bien être mu d'un mouvement de même espèce, ou bien d'un mouvement d'espèce différente. Et toutes les possibilités. Par exemple, ou bien, ce qui échauffe serait aussi échauffé. Ce qui guérit serait lui-même guéri. Ce qui transporte serait lui-même transporté. Ou bien, ce qui guérit serait transporté. Ce qui transporte, augmenté. Vous passez d'un genre à telle espèce. Sous un aspect, vous êtes en axe, sous l'autre aspect, vous êtes en puissance, étant donné la complexité. Mais c'est évidemment impossible, car c'est jusqu'aux espèces indivisibles qu'il faut pousser la division. Ainsi, enseigner telle proposition de géométrie et apprendre cette proposition, ce serait la même chose. Ou lancer, être lancé, sur le même mode de lancement. Ou bien, il n'en est pas ainsi, mais du mouvement d'un genre résulte un mouvement de notre genre. Par exemple, ce qui transporte est accru. Ce qui accroît la chose est altéré par autre chose. Ce qui produit cette altération est mu de quelques mouvements différents. Mais il faut s'arrêter, car les mouvements, leur genre et les espèces de chacun sont en nombre fini. Je ne peux pas aller à l'infini. Et vous voyez pourquoi ? Parce que l'espèce et le genre sont déterminés. Donc on ne peut pas aller à l'infini. Quant à dire que la série des mouvements est circulaire et que ce qui altère est transporté, c'est faire exactement comme si l'on disait tout de suite que le transportant est transporté et que l'enseignant reçoit l'enseignement. Car évidemment, le mu est mu, et dans tous les cas, par le moteur supérieur, et d'autant plus que parmi les moteurs, celui-ci a plus de priorité. Il y a là toutefois une impossibilité, en effet. Il s'ensuit que celui qui enseigne apprend, alors que nécessairement apprendre et ne pas posséder la science et enseigner la posséder au contraire. Ce qui n'empêche pas que celui qui enseigne apprend. Mais on voit très bien, si je le prends du côté formel, non. Pour enseigner, il faut être en acte. Pour apprendre, vous êtes en puissance. Donc vous ne pouvez pas être en même temps enseignant, apprendre. Mais sous deux aspects, oui. Parce que votre intelligence peut progresser tout le temps. Il n'y a rien de tel pour apprendre que d'enseigner. Tout le monde le sait, ça. Vous savez qu'il faudrait que le cours successivement soit fait par chacun, en particulier. À ce moment-là, on ferait des progrès énormes. Pas tout le monde, mais celui qui enseigne. En outre, voici une conséquence plus absurde encore. Tout ce qui a la faculté de mouvoir serait mobile. S'il est vrai que tout mu soit mu par un autre, soit mu par un mu, il serait mobile en effet. Comme si l'on disait que tout ce qui a la faculté de guérir et qui guérit est guérissable, que ce qui a la faculté de bâtir est capable d'être bâti, soit immédiatement, soit en passant par plusieurs intermédiaires. Par exemple, dirais-je, si tout ce qui est moteur est mobile sous l'action d'une autre chose, ce n'est pas cependant du même mouvement que celui dont il meut le terme voisin. Mais d'un mouvement d'autre sorte. Ainsi, ce qu'est la faculté de guérir aurait celle d'apprendre, mais en remontant, on arriverait à un mouvement à un moment quelconque, à la même espèce, comme on l'a dit plus haut. Donc, la première de ces hypothèses est impossible. L'autre est factice. Car il est absurde que ce qui a la faculté d'altérer est nécessairement celle d'être augmenté. Factice dans le sens de qu'est-ce qu'il dit. Oui, c'est factice. Donc l'une est la première sur. Absurde, être allogone, et l'autre est factice, c'est-à-dire peut-être changé. Il n'est pas nécessaire, par conséquent, que le mu soit toujours mu par autre chose, cette chose étant elle aussi mu. On s'arrêtera donc ainsi, ou bien le premier mu sera mu par un être en repos, ou bien il se mouvra soi-même. Mais bien sûr aussi, supposer qu'on doive examiner si la cause et le principe du mouvement, et ce qui se meut soi-même, ou ce qui est mu par autre chose, tout le monde affirmera que c'est le premier. En effet, ce qui est cause par soi est toujours antérieur à ce qui est en cause aussi, mais sous un autre rapport. Donc c'est l'antériorité de la cause prise de façon absolue. Donc vous voyez, tout ça, c'est facile à comprendre. On est dans l'ordre de des possibles et de l'impossible. On limite les possibilités. C'est bien de la critique pure. Alors, on va entrer maintenant dans un autre aspect, l'analyse du moteur qui se meut lui-même. Donc il n'est pas mu, mais qui se meut lui-même. Par suite, c'est à partir d'un autre principe que s'il y a une chose qui se meut par soi, dit Kinner, auto, auto. S'il y a une chose qui se meut par soi, on doit examiner comment elle meut. Et de quelle façon ? Le voici. Nécessairement, tout mu est divisible en partie. Toujours divisible. En effet, on a démontré antérieurement, dans la partie générale de l'étude sur la nature, que tout ce qui est mu par soi est continu. Il est donc impossible que ce qui se meut soi-même se meuve soi-même en totalité. Ça, c'est un des aspects qui prend du raison pour l'âme et le corps. Hein. Faut pas l'oublier. L'âme meut. Le corps est mu. L'homme se meut. En tant que vivant. Il se meut pas dans toutes ses parties, puisqu'il y a une partie qui est active et l'autre qui est patiente. C'est toujours la métaphysique de l'acte et de la puissance qui est sous-jacent à ça. En effet, on a démontré antérieurement, dans la partie générale de l'étude sur la nature, que tout ce qui est mu par soi est continu. Il est donc impossible que ce se meut soi-même, se meut soi-même en totalité. Il serait en effet tout entier transporté et transportant quant à la même espèce de transport, en tant qu'il est spécifiquement un et indivisible. Ou bien il serait altéré et il altérerait, et par suite à la fois il enseignerait et recevrait l'enseignement, il guérirait et serait guéri de la même guérison. Autrement dit, il serait en même temps acte et puissance, ce qui est impossible. En outre, c'est ce qui est mobile qui est mu. C'est sûr, ce qui est mu est mobile. Nous l'avons défini ainsi. Or, le mobile est un mu en puissance, non en acte. Mais l'empuissance s'achemine vers l'entélégie. D'autre part, le mouvement est l'entélégie imparfaite du mobile. Quant au moteur, il est déjà en acte. Par exemple, c'est le chaud qui chauffe. Et d'une façon générale, ce qui engendre, c'est ce qui possède la forme. Par suite, le même être serait en même temps et sous le même rapport, chaud et non chaud. De même aussi pour chacun des autres cas où le moteur doit être synonyme à l'effet. Donc, dans ce qui se meut soi-même, il y a une partie qui meut et une partie qui mue. Et ce qui se meut soi-même, c'est le vivant. Hein. Faut pas l'oublier. bien, dans le vivant, il y a toujours une partie qui meut l'âme et une partie qui meut le corps. Donc dans ce qui se meut soi-même, il y a une partie qui meut et une partie qui émue. Mais il n'est pas possible que l'être qui se meut soi-même soit tel que chacune des deux parties soit mue par l'autre. On va le voir d'après ce qui suit. Ça, c'est pour essayer de comprendre. Comment le premier moteur n'est pas mu. Et donc il est au-delà du monde physique. C'est ça que Christ a toujours montré, hein. Faut pas l'oublier. On va le démontrer par ce qui suit. Il n'y aurait en effet pas du tout de moteur premier si elle devait se mouvoir chacune mutuellement, car l'antérieur est plus court et plus cause du fait d'être mu que ce qui est attenant, et il m'ouvre davantage. Ainsi chaque partie sera telle qu'elle m'ouvra de deux façons, en étant mu par l'autre et en étant mu par soi. Or le plus éloigné du mu est plus près du principe que l'intermédiaire. De plus, il n'est pas nécessaire que le moteur soit mu, si ce n'est par soi. Le contre-mouvement que produit l'autre partie sera donc un pur accident. En conséquence de quoi, je l'ai admis, il est possible qu'elle ne meuve pas. Il y aura donc une partie mue, l'autre, la motrice, sera immobile. En outre, il n'est pas nécessaire que le moteur soit mu en retour, mais il doit mouvoir en étant ou bien lui-même immobile, ou bien mu par soi, s'il est vrai qu'il doit y avoir éternité du mouvement. Enfin, le mouvement dont le moteur meut, il en serait mu aussi, et par suite, ce qui échauffe serait échauffé. Et pourtant, il n'est pas vrai non plus que dans la chose qui est par soi et immédiatement un moteur, se mouvant soi-même, une partie ou plusieurs, se meuvent chacune elle-même. En effet, si le tout est mu lui-même, par lui-même, ou bien il se mouvra par une des parties de lui-même, ou bien l'ensemble des parties par l'ensemble des parties. Si c'est parce qu'une de ces parties se meut elle-même, alors c'est elle qui sera le premier moteur de soi-même. Mis à part en effet, elle se mouvra elle-même et n'en sera plus ainsi du tout. Mais si c'est le tout qui est mu par le tout, alors c'est par accident que ces parties se mouvront elles-mêmes, par suite. Si ce n'est pas nécessairement, on pourra supposer qu'elles ne sont pas mues par elles-mêmes. Donc, de l'ensemble, une partie mouvra en restant immobile, une autre sera mue. C'est seulement ainsi qu'il est possible qu'une chose soit capable de se mouvoir elle-même. En outre, si vraiment c'est l'ensemble qui se meut soi-même, alors une partie mouvra le reste, l'autre sera mu. L'ensemble AB sera donc mu par lui-même et aussi par A. Puisque ce qui meut, c'est une chose mue par une autre, soit une chose immobile, et que ce qui est mu, c'est soit une chose qui est motrice d'une autre, soit une chose qui ne l'est de rien. Dès lors, ce qui se meut soi-même doit être composé d'une chose immobile, mais motrice, et en outre, d'un mu qui n'est pas moteur nécessairement, mais qui peut l'être ou non. Soit en effet A, le moteur immobile, B, mu par A et mouvant gamma, celui-ci mu par B et ne mouvant rien, quoiqu'en effet on puisse passer à gamma par plusieurs intermédiaires, supposant un seul. Le tout A, bêta, gamma, bien sûr, se meut lui-même. Mais si j'enlève gamma, AB se mouvra encore soi-même, A étant le moteur, B le mu, tandis que gamma ne se mouvra pas plus soi-même, qu'absolument il ne sera mu. Cependant, bêta gamma ne se mouvra pas davantage sans A, car si B meut, c'est qu'il est mu par autre chose, et non du fait de l'être par une partie de lui-même. Donc seul AB se mouvra soi-même. Donc nécessairement, ce qui se meut soi-même comprend le moteur, mais qui est immobile est le mu. Mais qui ne meut rien nécessairement, ces deux éléments étant en contact, ou tous les deux mutuellement, ou seulement l'un avec l'autre. Assurément, si d'une part le moteur est continu, car le mu est nécessairement un continu, on voit que le tout se meut soi-même, non parce qu'une de ses parties a la faculté de se mouvoir soi-même, mais s'il se meut tout entier lui-même, mu et moteur, parce que le moteur et le mu sont ses parties. En effet, ce n'est pas la totalité de la chose qui est motrice, ni la totalité qui est mue, mais d'une part, seul A meut, d'autre part, seul B est mu. Quant à gamma, il n'est déjà plus mu par A, car c'est chose impossible d'après l'hypothèse. On tourne en rond, hein. J'espère que vous voyez bien. Mais il y a d'autre part une difficulté. Si l'on retranche une partie de A, le moteur immobile étant supposé continu, ou une partie de B qui meut, est-ce que ce qui reste de A mouvra et ce qui reste de B sera mu? Si en effet il en est ainsi, AB ne serait pas immédiatement mu par soi, car une partie de AB étant retranché, ce qui reste de AB se mouvrait soi-même. Toutes les hypothèses, hein, voyez bien. Voici ce qu'on peut répondre. Rien n'empêche que chacun des deux soit divisible en puissance, ou seulement l'un des deux, le mu. Mais en acte, ils sont indivisibles. Et s'ils sont divisés en acte, ils n'ont plus chacune la même fonction. Par suite, rien n'empêche que cette fonction d'être l'un moteur, l'autre mu, soit immédiatement immanente à leur sujet, divisible en puissance. On voit donc, d'après ce qui précède, que le moteur premier est immobile, soit en effet que la série des choses mu, mais mu par d'autres, s'arrête tout droit à un premier immobile, soit qu'elle aille jusqu'à un mu qui se meuve et s'arrête lui-même. Des deux façons, il s'ensuit que dans toutes les choses mues, le premier moteur est immobile. Ce qu'il fallait prouver. Très bien, ça c'est immobile, c'est un point d'arrêt. Voyez la complexité de toutes les possibilités entre mu, moteur, et l'ensemble, celui qui se meut. ces serments, il y a une antériorité du moteur qui l'acte. Et qui, lui, s'il est parfaitement antérieur, il est immobile. Parce que tout ce qui est mu est postérieur et second. Seul le moteur est premier. Et si le moteur est mu, il n'est pas totalement premier. Et donc nécessairement, il fait appel à autre chose. Il faut donc le premier qui soit absolument immobile. Métaphysiquement, ça se dit tout de suite. Mais au point de vue critique, vous passez par toutes les possibilités. Vous voyez, c'est tout. Ce qui est sous-jacent, c'est le point de vue de la métaphysique de l'acte, que l'acte est antérieur, selon l'ordre de perfection, à ce qui est en puissance. Et que la puissance est première génétiquement. Et donc, le premier ne peut pas être moteur mu. C'est métaphysiquement immédiate. Mais si vous voulez le prouver, alors vous devez passer par toute cette argumentation du possible.
Philosophie de la matière par le père Philippe Arimon, 22 mars 1990, deuxième cours.
Petite question. Pouvez-vous bien préciser l'analogie entre l'âme comme moteur et le premier moteur? Que pouvez-vous dire par « si le moteur est parfaitement antérieur, il est immobile ». Si le moteur est parfaitement moteur, il est immobile. Parce qu'il est en acte. Il est immobile. Alors, l'analogie entre l'âme comme moteur et le premier moteur, je faisais l'analogie non pas tellement avec l'âme, mais avec le nous séparé. La parole d'Anaxagore. Où Anaxagore lui-même faisait, du moins Anaxagore montrait que le nous séparé, ut imperatus segregé. Pour commander, il faut être séparé. C'est la fameuse phrase d'Anaxagore. Segregatus ut imperet. Segregatus de la matière au Timperet. Donc, pour commander, pour être moteur. Alors, c'est vrai que pour nous, au plan philosophique, il y a deux premiers. Un dans l'ordre de l'être et le premier dans l'ordre de la pensée, de la lumière. On pourrait dire de la lumière. Et le premier dans l'ordre de la lumière, c'est le nous séparé, le nous intellect-agent. Et il y a un raisonnement analogue pour poser les deux. Toute ma vie intellectuelle est dans le devenir. Et cependant, ma vie intellectuelle atteint l'être. Comment peut-elle, à travers le devenir, atteindre l'être? Il faut le nous séparer. Qui est lui, alors illumine. Il illumine le fantasme, il illumine. C'est une analogie qui est très curieuse, qui est très intéressante. L'au-delà, le dépassement du devenir. Le devenir n'est jamais premier. Voilà ce qu'il faut comprendre dans toute cette argumentation d'Aristote. Le devenir n'est jamais premier. Ce qui est mu en tant qu'il est mu n'est jamais premier. Il est toujours mu par un autre. On ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre. Alors, vous voyez, tout ça, c'est de l'ordre purement et simplement de la critique. C'est très fort. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas de preuve de démonstration de l'existence de Dieu en philosophie de la nature. Mais la philosophie de la nature, si je la regarde d'un point de vue critique, manifeste qu'il est nécessaire de dépasser la philosophie de la nature pour rendre raison cette philosophie de la nature. L'intelligibilité de la nature présuppose la sagesse de Dieu. Vous pourriez dire ça comme ça. C'est ce que saint Thomas ne cesse de prendre. L'intelligibilité du mouvement présuppose un premier moteur immobile. C'est vous le saisir. Mais c'est notre critique. C'est très fort. Alors, allons-y. L'éternité du premier moteur. Le premier moteur est immobile. S'il est immobile, il est éternel. Ça va ensemble. Puisqu'il faut que le mouvement existe toujours, puisqu'il faut que le monde épeille des kinésines, ein, einein, qu'il existe, qu'il soit éternel, et ne s'interrompe jamais. Il doit y avoir une chose éternelle qui meuve en premier, soit une seule, soit plusieurs, et le premier moteur doit être immobile. Vous voyez, c'est très important. Le métaxus, c'est le mouvement éternel. Alors comme le mouvement n'est pas éternel, ce métaxus dégringole. Ça, c'est le chapitre 8, c'est le livre 8. Heureusement qu'il y a le livre 7 avant. Parce que le livre 7 montre, indépendamment de l'éternité du mouvement, que ce qui est mu par un autre. Et qu'on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait un autre qui soit immobile. Oui. Seconde raison que prend Aristote à partir de l'éternité du mouvement, et qui pour nous est une pure hypothèse, puisque je n'ai jamais découvert que le mouvement était éternel. Et Aristote l'a établi dans ce livre 8, au chapitre 1, 2 et 3. Nous l'avons vu, si vous vous souvenez bien, c'est un dans un inconscient. Et ça fait partie des rêves, ça, ça. Que chacune des choses, à la fois immobile et motrice, soit éternelle, ce n'est pas actuellement notre propos. Quant à la nécessité qu'il existe un être qui, sans être vu soi-même, d'aucun changement externe, ou absolu ou accidentel, soit capable de mouvoir autre chose, elle est évidente d'après ce qui suit. Admettons, mais là encore hypothèse, si, je commence le raisonnement par si, si PQ, comme on dit en logistique, admettons, si l'on veut, l'existence de choses qui puissent tantôt être, tantôt ne pas être, et cela sans génération ni destruction. Peut-être en effet, s'il y a une chose sans partie, l'âme, qui tantôt est, tantôt non, n'est-ce pas forcément à un changement qu'une chose de cette sorte devra son existence et son non-existence. De plus, parmi les principes à la fois immobiles et d'autre part capables de mouvoir, admettons aussi, pour quelques-uns d'entre eux, que tantôt il soit, tantôt ne soit pas. Oui, mais cela n'est certes pas possible pour tous. En effet, il est clair que, pour les choses qui se meuvent elles-mêmes, il doit y avoir une cause de ce fait que tantôt elles sont, tantôt ne sont pas. En effet, ce qui se meut soi-même doit, dans son tout, avoir une grandeur, puisqu'aucune chose sans partie n'est mue. Mais d'autre part, rien de ce qu'on a dit n'impose cette nécessité au moteur. Et maintenant, la génération et la destruction, comme leur continuité, ne peuvent avoir leur cause dans les choses, même immobiles, qui ne seraient pourtant pas éternelles, ni non plus, en entrant dans le détail, dans celles qui, agissant d'ailleurs toujours, meuvent l'une, ceci, l'autre, cela, ni l'éternité, ni la continuité du mouvement ne peuvent avoir pour cause, ni chacun de ces moteurs, ni tous, car elles impliquent l'éternité et la nécessité. Et d'autre part, la série de tous les moteurs est infinie et ne forme jamais un système. On voit donc par suite que même si parmi les choses immobiles et motrices, quelques-unes sont principes un nombre incalculable de fois. Même si beaucoup de choses automotrices ne sont destructibles que pour faire place à d'autres, même si telle chose immobile mouvant ceci, il y en a un autre qui meut cela, il n'en existerait pas moins quelque chose qui les enveloppe toutes et qui, étant à part de chacune, soit la cause de l'existence et de la non-existence et de la continuité du changement. Et c'est ce qui donne le mouvement à ces choses automotrices, celles-ci le transmettant à d'autres. Si donc le mouvement est éternel, il y aura au aussi un moteur premier éternel. Supposez qu'il n'y en ait qu'un. S'ils sont plusieurs moteurs éternels. Donc, c'est assez facile à comprendre que si le mouvement est éternel, il faut qu'il y ait un moteur éternel. C'est la conclusion immédiate. Or, on a vu précédemment que le mouvement est éternel, donc il y a un moteur éternel. Or, il faut lui attribuer l'unité plutôt que la pluralité. Mais monothéisme, hein. Or, il faut lui attribuer l'unité plutôt que la pluralité, la finité plutôt que l'infinité. Ça, c'est une raison d'Aristote, hein, parce que pour Aristote, la peirone est quelque chose d'imparfait. La peirone infinie est quelque chose d'imparfait. Donc, il ne faut pas attribuer au premier moteur l'infini. C'est très intéressant de comparer Aristote et saint Thomas. Oui.
C'est l'infini mathématique dont tu parles.
Privatif. Il n'y a pas de limite. L'infini de saint Thomas est un infini négatif. On va le voir après, parce que c'est intéressant à noter ça. Or, il faut lui attribuer l'unité plutôt que la pluralité, la finité plutôt que l'infinité. À conséquence égale, en effet, il faut toujours choisir plutôt le limité. Car dans les choses naturelles, c'est le limité et le meilleur qui doit exister plutôt que cela, plutôt si cela est possible. Et il suffit d'un seul principe, qui étant le premier entre les autres moteurs immobiles, étant éternel, sera principe du mouvement pour les autres choses. Alors, vous voyez, on passe, on va voir ça ensuite. Il est clair aussi, d'après ce qui suit, que le premier moteur doit être une chose une et éternelle. En effet, on l'a montré, nécessairement le mouvement doit être toujours. S'il est toujours, nécessairement aussi, il est continu. Car ce qui est toujours est continu, tandis que le consécutif n'est pas continu. Cependant, s'il est continu, il est un. Or, il sera un. Or, il sera un si le moteur est un et si le mu est un. Car si le moteur et le mu sont toujours autres, le mouvement total n'est pas continu, mais consécutif. Là, vous voyez le raisonnement qu'il prend. Vous avez... Le mouvement est éternel. En raison du temps. Ce qu'on avait vu. Livre 8. Si le mouvement est éternel, il faut nécessairement que ce qui est mu est éternel. Il faut nécessairement que le moteur soit éternel. Soit un plutôt que plusieurs. Toujours la même idée en métaphysique. L'un est antérieur au multiple. soit limité. C'est-à-dire fini. Fini, c'est-à-dire achevé. Qu'il soit achevé, pleinement achevé. Puisque fini s'oppose à infini, qui est privativé. C'est la privation de la limite. Donc c'est imparfait. Voilà, toutes les conclusions. Christophe donne successivement. Alors, voyez, toute l'astuce de saint Thomas. Quand saint Thomas parle de Dieu infini, qu'est-ce que fait saint Thomas? Saint Thomas dit comme l'infini peut se concevoir de deux façons. Privativé. Négativé. L'infini privatif, c'est justement l'infini qui manque de limite. Ce qui est en puissance de la limite. Ça, c'est l'infini négatif. Si l'essai, l'être, n'est pas reçu, il n'a pas de limite. Puisqu'en soi, il ne conçoit que la perfection. Il n'implique que la perfection. Et donc, n'étant pas reçu, il est absolument parfait. Mais l'infini négatif. L'infini négatif vient qualifier quelque chose qui, en soi, n'implique aucune imperfection. Tandis que l'infini privatif, c'est celui qui qualifie quelque chose qui demande d'être actué. Il fallait le trouver. Hein. C'est très bête une fois qu'on le dit. Et je vais le trouver. En face d'Aristote, là, c'est un point où saint Thomas dit quelque chose qu'il ne dit absolument pas. Que ne dit absolument pas Aristote. Ce serait intéressant de voir, vous voyez, comment saint Thomas dit-il ça? Pourquoi c'est à cause de Dieu? Et comment il le dit? Il faut qu'il ait toute la métaphysique de l'être pour pouvoir le dire.
Est-ce qu'on peut dire que l'infini privativé est une indétermination?
L'infini
privativé,
oui. Est une
indétermination.
Oui, ça manque de limite. c'est la quantité indéterminée, l'imaginaire. Non-détermination, puisque c'est privation. On est toujours privé d'une forme. Oui. Oui. Donc d'une détermination. Dès qu'on dit privativé, ça regarde la détermination.
Donc ça mène dans la puissance.
Tout à fait. Dans la non-détermination. Tandis que négativé peut s'attribuer à tout. Et si ça regarde quelque chose qui en soi est positif, mais c'est par exemple la bonté. Une bonté non reçue, elle est subsistante. Oui. Alors continuons. Il est clair aussi, d'après ce qui suit, que le premier moteur doit être une chose une et éternelle. En effet, on l'a montré, nécessairement le mouvement doit être toujours. S'il est toujours, nécessairement aussi, il est continu. Car ce qui est toujours est continu, tandis que le consécutif n'est pas continu. Cependant, s'il est continu, il est un. Or, il sera un si le moteur est un et si le mu est un. Car si le moteur et le mu sont toujours autres, le mouvement total n'est pas continu. Le mouvement total n'est pas continu, mais consécutif. C'est sur ces raisons qu'on peut s'assurer que l'existence du premier immobile est aussi en considérant de nouveau les principes du mouvement dans les moteurs. Certes, l'existence des choses qui sont tantôt en mouvement, tantôt en repos, est évidente. Et c'est par là qu'on voit qu'il est faux et que tout soit mu ou que tout soit en repos et que certaines choses soient toujours en mouvement, les autres toujours en repos. En effet, les choses qui participent aux deux et qui sont la faculté d'être tantôt en mouvement, tantôt en repos, montrent bien ce qui en est. L'existence de telle chose est claire pour tous. Mais nous voulons montrer aussi quelle est la nature respective de ces deux classes. Savoir qu'il y a des choses. Qu'il y a des choses toujours immobiles et d'autres toujours mues. En progressant vers ce point et en posant que tout mu est mu par quelque chose, laquelle est immobile ou mu. Et si elle est mu, l'est soit par elle-même, soit toujours par un autre. Nous sommes ainsi venus à admettre que le principe des choses mues est en tant qu'elles sont mues. Ce qui se meut soi-même, et d'autre part, pour elle toute l'immobilité. Or, l'expérience nous montre avec évidence qu'il y a certains êtres qui ont cette propriété de se mouvoir eux-mêmes. Par exemple, le genre des vivants et celui des animaux. C'est même cela qu'a suggéré l'idée que le mouvement pouvait bien survenir dans un être, alors qu'il n'existait aucunement, puisque c'est ce qu'on voit se passer chez les êtres en question, immobiles à un moment. Les voilà, semble-t-il, qui se meuvent. Il faut donc remarquer que ces êtres se meuvent d'un seul mouvement, et en outre qu'il ne se le donne pas absolument, car la cause de lui-même, comme il y a dans les animaux d'autres mouvements physiques qu'ils ne se donnent pas eux-mêmes, comme l'accroissement, le décroissement, la respiration, dont chacun des êtres, encore qu'en repos, est mu alors qu'il n'est pas lui-même cause de son mouvement. La cause se fait et le milieu et un grand nombre de choses qui entrent en l'être. Ainsi, pour certains, la nourriture, car une fois qu'ils l'ont digérée, ils s'endorment. Puis, lorsqu'elle a été répartie et assimilée, ils s'éveillent et se meuvent eux-mêmes. Puis le principe premier du mouvement leur est extérieur. Aussi, n'est-ce pas un mouvement ? Aussi, n'est-ce pas un mouvement qu'ils se donnent eux-mêmes et de façon continue, car ils ont un autre moteur, lui-même mu, et un rapport variable avec chacun de ses automoteurs. Mais dans tous, le moteur premier, la cause de l'automotricité, s'il est mu par soi-même, l'est cependant par accident. En effet, le corps change de lieu et par suite, il en est de même pour l'automoteur, logé dans son corps, comme dans le levier. D'après cela, on peut se convaincre que si l'on a affaire à des êtres immobiles, moteurs, si on a affaire à des êtres immobiles moteurs, mais mus eux-mêmes par accident, il est impossible que le mouvement soit continu. Par suite, puisqu'il est nécessaire qu'il y ait du mouvement continuellement, il faut qu'il existe une chose qui soit le premier moteur immobile, et ne l'étant pas par accident. S'il doit y avoir dans les êtres, comme nous l'avons dit, un mouvement indéfectible et impérissable, et si l'être total doit aussi rester immobile en soi et en sa place, sa même place, en effet, l'immutabilité du principe entraîne nécessairement aussi celle du tout, en vertu de sa continuité par rapport au principe. D'autre part, il faut distinguer entre le mouvement accidentel que l'être se donne à lui-même et celui qu'il reçoit d'autre chose, car celui qui vient d'autre chose, vient d'une chose étrangère, appartient même à certains principes des choses célestes qui subissent plusieurs transports, tandis que l'autre n'appartient qu'aux êtres périssables. Or, par accident, pouvant. Il pense au corps céleste, hein, n'oubliez pas. Les corps célestes peuvent avoir un mouvement accidentel qui n'est pas un mouvement substantiel, tout en étant éternel. Maintenant, s'il y a toujours un tel moteur immobile en soi et éternel, nécessairement la première chose qui est mue par lui, le ciel des étoiles fixes, est éternellement mue. Et c'est évident pour cette raison aussi que la génération, la destruction, le changement ne peuvent se produire pour les autres choses, à moins que le mouvement ne soit donné par une chose mue. En effet, le moteur immobile donnera toujours le même unique mouvement et de la même manière en tant qu'il ne change en rien relativement au mu. Au contraire, un être qui est mu ou par l'immobile ou par ce qui est déjà mu, du du moment que son rapport aux choses est variable, ne sera pas cause d'un mouvement identique, mais se trouvant dans des lieux ou dans des formes contraires, fera que chacun des êtres a des mouvements contraires et qu'il est tantôt en repos, tantôt en mouvement. Voilà résolu, après ce qui vient d'être dit, la difficulté posée au début. Chapitre 3. Pourquoi donc tout n'est-il pas ou en repos ou en mouvement? Ou certaines choses toujours en mouvement et les autres toujours en repos, mais certaines tantôt en mouvement et tantôt en repos? On en voit maintenant la raison. C'est que les unes sont mues par un mouvement immobile éternel, d'où leur changement éternel. Les autres, par une chose mue et changeante, d'où également leur changement nécessaire. Quant à s'assimiler, d'où également leur changement nécessaire. Quant à l'immobile, on l'a dit, en tant qu'il ne cesse pas d'être simple, identique et dans le même état, il mouvera d'un mouvement unique et simple. Et la difficulté pour Aristote ayant remonté vers le premier moteur, qui est toujours en acte, et donc produit toujours le même mouvement. Le mouvement circulaire, uniforme. Aristote essaie de recomposer un peu, mais tout ça présuppose un mouvement éternel. C'est répondre à ce que lui-même, en raison de ce que l'astronomie du temps, prétend qu'il y a un mouvement uniforme. Oui, c'est ça qu'au fond Aristote essaie de montrer ici. Là, tout ça évidemment demande complètement d'être purifié. C'est le ciel des étoiles fixes qui fait le mouvement uniforme. Ce mouvement uniforme est mu par un moteur immobile qui est unique et dont l'action est toujours la même. Bien comprendre un peu la perspective d'Aristote et comment il remonte à travers ce monde physique à un premier moteur immobile qui meut toujours le même. Évidemment, ça n'est pas juste. Parce que le mouvement n'est pas éternel.
Dans la perspective d'Aristote, à quel moment ça produit la corruption dans le mouvement?
Ah, après, c'est à cause du mouvement sublunaire. Vous voyez ? Ou alors on a affaire à une matière, la matière que nous voyons, des éléments. Vous voyez ? Vous touchez là les deux extrêmes de la vision d'Aristote au point de vue du monde physique. Qu'il reprend du raisonnement métaphysique. Vous avez donc le cercle, n'est-ce pas, immobile. Au centre, la Terre. Pour Aristote, la Terre est au centre de ce mouvement circulaire, uniforme, éternel. Il faut bien, s'il est éternel, il est uniforme. Le mouvement des étoiles fixes. Qui est un fécond. Enfin, des étoiles fixes. Qui est dont le mobile avait sens. Mais puisqu'il faut que le corps mu d'un mouvement uniforme et éternel soit lui-même au-delà de la corruptibilité, et pourra être au-delà de la corruptibilité, il implique donc une matière distincte de la matière corruptible. Et nous avons là la quintessence. La quintessence, c'est le cinquième élément. Le cinquième élément incorruptible. Cinquième élément. Qui est la lumière, un corps lumineux et un corps de feu. Mais qui n'est pas, qui est au-dessus, puisqu'il est au-dessus du feu, puisque le feu fait partie des quatre éléments. Alors, c'est le monde sublunaire, le soleil, qui est le monde corruptible, enveloppé de l'incorruptible. Alors, c'est là où il verra toutes les sphères successives, pour arriver à celle-ci, celle de la Lune. Et la Terre est en point fixe, et celle du soleil. Sous l'influence de la lune et du soleil. Alors, voyez, il y a toute une construction là qui dépend de cette affirmation. Parce que ça, c'est capital. Le mouvement est éternel. Le mouvement physique est éternel. C'est pour ça que c'est si important pour lui, cette affirmation. Parce que s'il est éternel, il est donc incorruptible. Et il exige une matière qui est au-delà de la corruptibilité. Donc une matière d'un caractère particulier qui est lumière. Des grands lumineux. Ah, tout ça est une construction. Oui. Alors c'est ça qui est très curieux. Parce que à partir de quel moment cette construction s'est faite, alors que ce qu'il dit sur le mouvement est juste, ce qu'il dit sur l'altération est juste, ce qu'il dit sur les quatre éléments demeure vrai. À partir d'un moment où on est au-delà de l'expérience. Et on est dans l'ordre des hypothèses. Et on passe de l'hypothèse à la réalité existante. Donc il reste l'ontologisme, là. Il reste du platonisme, si vous voulez. C'était très difficile pour Aristote, ça, étant donné les traditions religieuses. Les traditions religieuses qui montrent que le ciel, il y a une âme céleste. Alors, est-ce qu'Aristote a maintenu l'âme céleste ou l'a-t-il dépassé ça? On discute là-dessus. Il y a des opinions différentes. C'est pas très commun dans le De Cello de bien voir ça. Alors, il y en a qui disent qu'au début, Aristote a accepté l'âme des corps célestes. Puis qu'au terme, il a supprimé. D'autres disent l'inverse. Parce que, de fait, dans De Cello, les deux théories sont un peu impliquées l'une dans l'autre. Et ce n'est pas, je crois, cela qui intéresse pour nous. Ce qui nous intéresse, et je crois que ça, c'est important de voir comment s'est fait ce glissement. Livre 7, qui me semble